France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
J'apprends un métier, c'est un chouette métier, j'aime bien.
Les Baumets, c'est le seul restaurant de France ouvert au public qui se trouve dans une prison. Et ce jour-là, Léo Troisgros est venu donner un cours de cuisine.
Quoi ton plat préféré?
Mon plat préféré, c'est le couscous de ma mère, c'est tout. Ouais.
Ah ouais, bah voilà, tu mets les épices du couscous.
Ouais.
C'est gastronomique, donc c'est étonnant de se dire que nous, on peut faire ça. Et il nous faut confiance, ouais, c'est agréable en fait.
En direct, une raviole, deux nantua et un risotto.
C'est très bon, c'est surprenant. Insertion vers les menus de la restauration, c'est une super idée. On entend tous les jours dire qu'il manque de personnel.
Je trouve que la démarche, elle est très bonne.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau d'On va déguster. Et si les métiers de la restauration étaient une façon de restaurer sa dignité? Après la casse-prison, c'est la question sensible, voire même un peu taboue, qu'on aborde aujourd'hui avec un grand témoin. C'est une femme que beaucoup considèrent comme un modèle de réinsertion. Justine Audouin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef cuisinière, vous faites des étincelles sur la scène gastronomique parisienne en ce moment. On parle pas mal de vous. Et vous allez nous raconter comment la cuisine vous a littéralement sauvé après 3 ans et demi de détention à la maison d'arrêt pour femmes de Fleury-Mérogis. Vous allez nous raconter votre histoire, mais vous allez aussi nous faire déguster quelques-unes des recettes qui racontent un peu ce que vous êtes aujourd'hui. Un avant-goût de ce que vous nous avez apporté, Justine.
Ce qu'on va cuisiner aujourd'hui.
Oui.
J'ai choisi de faire 2 recettes.
Oui.
D'abord une recette qu'on peut faire en cellule, donc que j'ai pu faire là-bas. Une tartelette avec une ricotta maison, parce qu'on ne peut pas en acheter. Citron confit, olive et une pâte de noisette à l'ail confit.
Génial, et on garde un peu la surprise pour la deuxième recette qui nous fait très envie et qu'on dégustera également ensemble. Pendant cette émission, la réinsertion par les métiers de la cuisine pendant et après des années de détention, c'est une question qui s'invite dans le débat public en ce moment. Zazie Tavitsian, bonjour.
Bonjour.
Direction Marseille avec vous pour mettre en lumière un projet expérimental qui était le sujet justement de l'accroche sonore de cette émission.
Oui, c'est ce qu'on a entendu au début. Moi, je me suis rendue au Baumets, donc ce restaurant bistronomique où cuisinent des détenus et où tout le monde peut venir manger.
Les Baumets aux Baumettes, on laisse apprécier le jeu de mots, et on va goûter, déguster tout à l'heure des plats avec vous au Baumets. Également avec nous tout au long de cette émission, notre historien Luc Bienassi, bonjour.
Bonjour.
Alors vous allez nous raconter le destin carcéral et gastronomique d'un grand auteur du XVIIIe siècle.
Oui, d'un prisonnier célèbre, embastillé à la fin du XVIIIe siècle, et on va parler de ses goûts culinaires, il s'agit du Marquis de Sade.
Très bien, réagissez dans notre émission en direct sur franceinter.fr ou sur notre mail. On va déguster à radiofrance.com et retrouver toutes nos infos, nos recettes et les très belles recettes de Justine Audouin, notre invitée du jour, ainsi que tous nos podcasts. C'est sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
La prison c'est dur, la sortie c'est sûr. Une phrase qu'on entend bien souvent. Mais en réalité, les personnes qui souffrent le plus dans cette situation, ce sont nos parents, nos mamans, nos frères, nos sœurs, nos femmes, nos enfants. Pour la grande majorité, on est juste en train de payer les erreurs qu'on a commises dans le passé. Et ouais. Bref, tu assaisonnes ton poulet. Piment, sel, poivre, gingembre, paprika, tu mets à peu près tout ce que tu trouves. J'ai allumé un charbon que je mets à l'intérieur de mon four pour laisser un arrière-goût fumé à la deuxième cuisson. Abonne-toi si t'as kiffé.
On sentait une passion dans ces vidéos. Moi, je suis touché par ça parce que je me dis que tout le monde a le droit à une deuxième chance dans la vie. Moi, ce que je lui ai dit, c'est cette année, c'est important qu'il passe son CAP. Comme ça, au moins, il a ce bagage.
Et au début du stage, est-ce qu'il y a eu des erreurs?
Il me les a peut-être cachées, je suis même pas
non,
au courant.
C'est l'erreur du beurre. Hein, le beurre, quand j'ai oublié le beurre dans la pâte à croissant.
Ouais, ouais. On n'a pas besoin tous d'être des super-héros de la pâtisserie pour arriver dans une team comme la nôtre.
Peut-être avez-vous entendu parler du phénomène pingouin. Pingouin était ce que l'on appelle un TikTolar, un de ces détenus devenu une star sur TikTok et les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un jeune de Saint-Denis qui s'est laissé happer par la violence et les trafics en tout genre, qui a passé 4 ans derrière les barreaux et qui s'est littéralement passionné en cellule pour la cuisine et pour la pâtisserie. Il s'est fait connaître du grand public sous le pseudo Pingouin7593 à travers des dizaines de vidéos de recettes publiées sur les réseaux sociaux. Il a 162 000 followers sur TikTok et plus de 48 000 followers sur Instagram. Et à sa sortie de prison en 2024, c'est tout récent, à l'âge de 28 ans, il a été embauché en CDI par le célèbre chef pâtissier parisien Jeffrey Kahn qu'on entendait dans l'extrait à l'instant, qui nous confirme d'ailleurs qu'il est encore à ses côtés et que c'est un très bon élément, même si au début il a oublié le beurre dans la pâte à croissant.
Ça arrive.
C'est un peu embêtant. Justine Audouin, vous-même vous êtes présente sur les réseaux sociaux sous le pseudo
Golden Pintade.
Golden Pintade. Et j'ai vu que vous suiviez Pingouin. Est-ce que vous le connaissez? Vous êtes rencontré?
Non, jamais, jamais, jamais. Je regarde ses vidéos. J'ai regardé ses vidéos.
Mais alors, quand on voit Pingouin dans ses vidéos bricoler, par exemple, un ventilateur de sa cellule pour en faire un batteur électrique ou transformer un pot de yaourt en balance, ça vous rappelle certainement des choses.
Ouais, le pot de yaourt, je l'ai fait aussi. J'avais demandé à ma sœur de m'envoyer les équivalences pour les peser. Donc, je sais que c'est 55 grammes de flocons d'avoine, 100 grammes de sucre.
Et vous avez d'ailleurs sous les yeux tout un attirail, ce sont des objets, des ustensiles que vous vous êtes vous-même bricolé, racontez-nous.
Oui, on a du temps, on n'a pas accès à grand-chose, donc on fait preuve un peu d'astuces pour réussir à cuisiner dans la cellule. J'ai fabriqué une râpe en perçant des trous dans une boîte de conserve.
Et vous l'avez là?
Ouais.
Elle marche très bien, visiblement.
Elle marche bien, elle marche bien. On n'y pense pas à orienter les trous tous dans le même sens, en fait, pour pouvoir râper. Voilà, je ne m'étais jamais posé la question, mais ouais, c'était la deuxième étape. On réutilise aussi l'aluminium des tablettes de chocolat pour faire des moules, les petites boîtes de pâté également aussi. Tout devient ustensile. J'avais fait un panier vapeur avec la boîte de protéines en poudre aussi.
À quoi il sert ce manche de casserole en plastique noir?
Ouais, c'est mon pilon. J'ai fait beaucoup de beurre de cacahuète maison, beurre d'amande, beurre de noisette que j'ai utilisé dans la tartelette notamment. Le but c'est de faire un mortier avec le manche de la poêle dévissé.
On apprend à faire également des poches à douille par exemple.
Ouais, poche à douille, on récupère tous les sacs qu'on a, tous les papiers. Le papier sulfurisé, c'est le papier qu'il y a entre les feuilles de briques aussi, qui n'est pas censé être utilisé non plus pour cuisiner, mais bon.
Et vous nous avez apporté aussi votre premier couteau de cuisine, qui est un petit couteau pliable assez modeste, ouais, de quelques centimètres.
Et ça se casse, en général, ça se casse dans l'autre sens. Mais on essaye de les affûter sur la céramique du lavabo, mais ça ne marche pas très bien.
On va revenir évidemment sur votre histoire, Justine, mais dans une lettre manuscrite que vous avez écrite le 3 mai 2020 et que vous avez rendue publique, alors que vous étiez incarcéré à Fleury-Mérogis, voici ce que vous écrivez. J'ai toujours aimé cuisiner, adoré même. Ce qui était une passion à l'extérieur est devenu, avec le sport et le yoga, le troisième pilier de mon équilibre quotidien, de mon bien-être, un moyen de passer le temps, de s'évader, mais surtout de se challenger ou de se surpasser, pour éviter cet anglicisme, vous écrivez bien. En effet, s'adapter au maigre matériel disponible stimule la créativité. On fabrique une râpe, des emporte-pièces, une poche à douille, un panier vapeur. On récupère le papier aluminium, vous le disiez, des tablettes de chocolat. On devient astucieux et on apprend la patience. Je ne compte plus le nombre d'heures passées à piler des amandes ou des noisettes pour réaliser des pâtisseries et la fierté ressentie devant le résultat lorsque je sais que je vais faire plaisir à ma co-détenue. J'essaye de noter mes plus grands succès pour éventuellement préparer un livre à ma sortie. Gyoza, bao, gâteau basque, tarte au citron meringué, et vous nous avez apporté une recette que vous avez imaginée justement en détention.
Oui, la tartelette. Finalement, ouais, je me suis retrouvé à faire pas mal de pâtisseries. On n'avait pas accès à beaucoup de viande, beaucoup de légumes. Mm-hmm. On peut faire sa ricotta soi-même en faisant cailler du lait. On a quand même du beurre. On peut faire ses citrons confits aussi en les mettant au sel et en les conservant.
Alors, c'est Zazie qui s'occupe de la découpe. Racontez-nous, Zazie.
Ben, je m'en suis emparée. C'est une petite tartelette. Moi, que je trouve assez jolie, parce que je sais que Justine, vous êtes arrivée, vous étiez là à la montée comme ça, juste avant l'émission, avec des petits morceaux d'olive par-dessus aussi, la ricotta, une tarte qui fait un peu rustique.
Mais on parle quand même, soyons clairs, d'une goûté. Tarte salée.
Oui, une tarte salée, là, cette fois.
Donc, c'est une tartelette individuelle. Alors, j'imagine qu'en prison, vous avez donc utilisé cette boîte de conserve pour le moule, c'est ça?
C'est ça. J'en ai fait un cercle.
Un emporte-pièce, un cercle, un sac de cuisson.
C'est ça, tout à fait. Et pour la cuisson, ça se passe à la poêle. En fait, on a une plaque à induction qu'on peut, qu'on peut cantiner, donc acheter. On met une poêle, et après une poêle à l'envers par-dessus et une autre plaque à induction par-dessus à retourner.
Vous créez un four, en fait.
C'est ça.
Alors, commentaire de dégustation.
Non, moi, je trouve ça très bon. J'adore être salé. La pâte est très bonne. Et il y a le petit côté un peu... olive, aussi citron confit.
Un peu confit.
Ouais. Et le citron confit, vous le faites aussi...
Oui.
Vous pouvez pas le cantiner.
Non, c'est ça. La liste quand même de produits qu'on peut acheter est assez réduite. Donc ouais, ça limite, mais aussi ouais, ça, c'est des contraintes qui permettent aussi de stimuler la créativité.
Parce que soyons clairs, en prison, il y a une épicerie, on peut y acheter le strict minimum quand on a la chance d'avoir un peu de denier, un peu d'argent.
C'est ça.
Et le reste, ben, on bricole soi-même, le lait, on le transforme en ricotta. Le citron, ça part d'un citron frais et vous le faites carrément confire.
Ouais.
Donc, c'est un peu, entre guillemets, l'art de la débrouille, le système D à tous les étages, en toutes circonstances, y compris pour la cuisine.
C'est ça, sans frigo en plus, donc ma tentative de pâte feuilletée avait été un peu un échec, globalement. Non, mais j'avais essayé de la faire refroidir en mettant des papiers humides devant le ventilateur, mais en plein été, c'était compliqué.
Alors, Loïc ?
Mais là, elle est super croustillante. Là aussi, la cuisson, elle a été à la poêle ?
Là, j'avoue, j'ai utilisé mon four.
Parce que ça, c'est quand même quelque chose de difficile à maîtriser. J'imagine aussi d'avoir là, on parlait de la pâte feuilletée, mais j'imagine que pour ce type de pâte aussi, ça...
Ouais, non, ouais, mais ouais, pour la maîtrise des températures des plaques, c'est assez tricky, mais bon, on finit par le maîtriser, ouais.
Parce que là, justement, je trouve que c'est une des forces de cette tartelette, c'est la qualité de la pâte et son croustillant, quoi.
Et vous avez noté dans de petits carnets que vous avez d'ailleurs oublié chez vous.
Oui,
tous vos souvenirs culinaires, toutes vos techniques, toutes vos recettes.
Ouais, plein. Alors là, ils sont dans un état pitoyable, mais c'est bien parce que c'est une certaine chronologie, donc je peux voir tout ce que j'ai fait. Et là, de me replonger dedans pour l'émission, ça m'a fait presque plaisir. Enfin, je me suis revu dans ma cellule en train de faire tout ça, et c'est fou. Enfin, voilà, de voir tout ça, c'était...
Vous n'êtes pas parti de zéro quand même, parce que vous avez grandi dans une famille où on aimait la bonne bouffe, où la cuisine avait de l'importance, et cette passion, vous est arrivée comment au premier jour de votre détention ?
En fait, bon, la cellule fait 9 mètres carrés, on y passe beaucoup de temps, 22 heures par jour le week-end, et on n'a pas... les choix des activités sont assez limités, on peut regarder la télé, faire un petit peu de sport si on veut, nettoyer beaucoup, et finalement la cuisine, tout le monde cuisine en détention, c'est quelque chose qui rattache à l'extérieur, on nous distribue des repas, mais c'est vrai que tout le monde aime les améliorer, et voilà, ça permet de prendre en possession du lieu, en fait, de sentir un peu plus chez soi, et de communiquer, de partager, donc ça reste un vrai lien, et voilà, moi ça a paru comme une évidence. Tout le monde cuisine en prison.
Et la cuisine est aussi une façon de dialoguer avec l'autre, de partager ce qu'on en a fait, d'attendre peut-être les réactions d'une co-détenue.
Ouais, grave, co-détenue, et aussi on essaie de ramener ce qu'on a cuisiné en cours de promenade, mais donc c'est interdit, il faut les cacher sur soi, donc je me suis retrouvé avec des cookies dans mon soutien-gorge pour pouvoir aller les donner, donc non, c'est tout est compliqué, on fait des yo-yo aussi par la fenêtre, mais on s'échange des plats, et ouais, c'est ça, ça fait plaisir, on me commandait des gâteaux pour les anniversaires, c'est chouette, enfin, on vit.
Vous êtes effectivement ce que l'on appelle un modèle de réinsertion, Justine Audouin, puisqu'aujourd'hui vous êtes une chef réputée à Paris, vous vous êtes fait connaître au fourneau de Ajar, un bistrot place Sainte-Marthe, Paris 10e, où vous avez officié de juin 2023 jusqu'à janvier dernier. Vous faites des remplacements aujourd'hui dans différents restaurants réputés, Parcelles, Paris 3e, ou encore Le Cyrano, Paris 17e. Vous préparez un très beau projet avec une chef qu'on connaît très bien dans cette émission, qui est déjà venue d'ailleurs à ce micro plusieurs fois, c'est Marie-Victorine Manoa. Je crois qu'on n'a pas le droit d'en dire tellement plus. Mais
ouais,
ça va être un projet dont on va vraiment entendre parler, Rive Gauche à Paris, on n'en dit pas plus. Ouais. Vous avez également un projet de livre avec votre éditrice ici présente.
Oui, tout à fait. Pas mal de projets, j'ai un modèle de réinsertion, je sais pas. Après, moi, j'ai quand même eu énormément de chance. J'ai réussi à sortir de prison, à obtenir mon aménagement de peine en intégrant l'école de Thierry Marx. Donc déjà, la cuisine, dès le départ, a été un tremplin, et j'ai eu énormément d'opportunités, des gens qui ont voulu me faire confiance, qui m'ont donné ma chance, et je sais que c'est pas donné à tous, on n'est pas tous égaux face à la réinsertion, et moi je réalise la chance que j'ai eu d'être entouré comme ça et de pouvoir évoluer aussi rapidement dans la restauration.
Vous avez déjà, Justine Audouin, déjà tout raconté avec sincérité et transparence sur votre projet de vie, sur les causes de votre incarcération dans une longue lettre, je la citais tout à l'heure, une longue lettre manuscrite que vous avez écrite en mai 2020 et que vous avez rendue publique par l'intermédiaire de Déconfiné, un magazine qu'a présenté Maïtena Biraben sur la chaîne parlementaire. Vous deviendrez même, à votre sortie de prison, chroniqueuse pour cette émission. Alors, je résume votre parcours pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne vous connaissent pas. On est dans les années 2000, vous êtes une fille ordinaire, issue de la petite bourgeoisie rurale du Sud-Ouest, c'est comme ça que vous qualifiez vos origines sociales. Vous quittez le foyer familial pour suivre des études de droit à Bordeaux, vous avez votre appartement, vous découvrez l'indépendance, vous faites beaucoup la fête. Vous êtes un peu, selon vos mots, la meuf jusqu'au boutiste, toujours la dernière à aller se coucher. Vous consommez de l'alcool et des substances illicites, cocaïne et MDMA, qui est le principe actif de l'ecstasy. Dans l'espoir de vous éloigner des soirées bordelaises, vous déménagez à Paris, vous entamez une licence d'histoire de l'art dans le but de passer le concours de commissaire-priseur, mais vous replongez dans une spirale de fêtes et d'excès jusqu'à cette nuit du 23 au 24 décembre 2016 où votre vie bascule. Après une soirée avec des potes, vous allez chez une amie pour continuer à faire la fête. Vous êtes six dans un appartement, il est tard, vous partagez une bouteille contenant de la MDMA diluée dans l'eau. Les analyses montreront plus tard que cette drogue est mortellement dosée et Alice, une de vos amies, fait une overdose mortelle. Et là, tout s'enchaîne. Garde à vue, juge d'instruction, détention préventive, maison d'arrêt pour femmes de Fleury-Mérogis, c'est la maison située au, la prison située au sud de Paris dans l'Essonne. En janvier 2020, vous êtes condamné à 8 ans de prison pour homicide involontaire. À l'époque de votre condamnation, vous aviez déjà effectué 3 ans de détention préventive et avec les aménagements de peine, vous étiez libérable dans un délai de 6 mois. Vous êtes finalement sorti de prison le 18 août 2020 avec un bracelet électronique. Vous avez dit, Justine Audouin, quand je suis sorti de prison, dès que je rencontrais quelqu'un, j'avais besoin de lui expliquer ce qui s'était passé.
Oui, c'était mon passé récent. Dans tous les cas, je ne pouvais pas occulter ces 3 ans de ma vie. Et je sais pas, c'est pas quelque chose que je voulais cacher, ça faisait partie de moi, ça a aussi contribué à faire de moi la fille que je suis aujourd'hui et la chef que je suis aujourd'hui. Et je voulais aussi laisser la liberté aux gens de choisir s'ils voulaient me parler ou pas, enfin, en toute transparence et assumer ça, enfin, je sais pas. Maintenant, ça fait bizarre de réaborder le sujet parce que quand je rencontre des gens, maintenant, voilà, on parle de cuisine, on parle de mon parcours, de ma vie professionnelle, et ça vient plus sur le tapis immédiatement, mais je pars du principe que tout le monde est au courant et ça fait, ouais, la bascule est assez étrange. C'est pas quelque chose que j'ai envie de cacher.
Mais vous me disiez effectivement en préparant cette émission que vous avez eu besoin de poser des mots sur votre parcours, même si y a ce dilemme un peu moral, vous êtes beaucoup interrogé sur votre médiatisation, le fait effectivement qu'on vous a beaucoup donné la parole parce que vous êtes un modèle de réussite et de réinsertion, ne serait-ce que par rapport à la souffrance de la famille d'Alice.
Oui, parce que c'est ça, mon parcours il est atypique, il est beau en un sens, d'une épreuve, j'ai réussi à en faire une force et à rebondir, mais encore une fois, ça s'est pas fait tout seul. J'ai été bien entouré, mais c'est pas moi qui suis forte, ou c'est pas moi qui suis un modèle. C'est voilà un concours de circonstances. Mais ce que j'oublie pas, c'est que quelqu'un a perdu la vie, et ça, je pourrais jamais l'effacer. Et je regrette forcément cette épreuve. Ça m'a forgé. Je suis fier de la personne que je suis aujourd'hui. Mais si je pouvais effacer et revenir en arrière et faire les bons choix, je le ferais 100 fois. Et tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour elle. Je suis obligé de respecter son décès.
Vous allez nous raconter comment vous vous êtes justement réinséré, grâce notamment à cette formation culinaire que vous avez suivie à la sortie de prison. Vous allez nous raconter ça dans un instant, derrière la vitre de la régie, pour réaliser cette émission en direct. Laurent Thomas, Louis Moreau, Fabrice Rivaud. Eh bien, on écoute 2000 de SCH, pioché par Djoubaka sur notre playlist. Vous êtes bien sur France Inter.
J'suis né avant les années 2000. J'veux voir voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. J'pense à décembre, j'pense à avril. J'ai la libé avant le mot d'or, c'est la pluie, j'm'en fous. Ce week-end, j'vais au Costa Rica. Réunion, j'traite les millions avec ma gueule de smica. Amis pris pour que nous le restions. Pas d'ingestion, des émotions, c'est pas la question. Mais tu réponds aux questions par des questions. On crie jamais famine, on se débrouille comme d'hab. On taffe au 3, 8, on deal au bon pack. On crie jamais à l'aide, on fait avec et puis t'en aides, on s'en tape.
J'en ai cicatrices comme des forces, pas comme un handicap. Et je bois ce whisky sans glace. Je suis né avant les années 2000. Je veux voir voler les automobiles et les cernes sur ma photo de profil. Je pense à décembre, je pense à avril. J'ai la libé avant le mobile. Les années 2000. Je veux voir voler les automobiles et les cernes sur ma photo de profil. J'pense à descendre, j'pense à vrai. J'ai la libé avant le mobile. J'ai connu le franc, j'ai connu le faux. Le daron dans la cadette 16. Dans un futal en velours. À siphonner des poids lourds. Le crissement du tourne-disque sur le vinyle des Jitaf. Le crissement du VR6. J'tire le poste avec un prise classe. La crâne bien défile sous mes yeux dans le tramway. Maman vend ses bijoux chez la tante. Quelques poubelles vont cramer. Mon reflet dans une flaque de pisse. J'fais des sourires au camé. J'rêve de quartier, bois, j'rêve de palais. Comme les damnés. Les années 2000. J'veux voir voler les automobiles et les cernes sur ma photo de profil. J'pense à décembre, j'pense à avril. J'ai la libé avant le mobile. Les années 2000. J'veux voir voler les automobiles et les cernes sur ma photo de profil. J'pense à décembre, j'pense à avril. J'ai la libé avant le mobile. Les années 2000, je veux voir voler les automobiles et les cernes sur ma photo de profil. Je pense à décembre, je pense à avril. J'ai la libé avant le mobile.
Comment se réinsérer dans les métiers de la cuisine après être passé par la casse-prison? C'est le sujet sensible qu'on aborde aujourd'hui avec notre invitée du jour, Justine Audouin. On va également évoquer dans un instant avec notre reportrice Zazie Tavitian un projet qui fait beaucoup, beaucoup parler de lui. On peut même parler, je crois, de succès et de réussite à la prison des Baumets. Justine Audouin, revenons à votre histoire. Vous êtes en prison, on l'a compris, vous cuisinez beaucoup, de manière frénétique. Vous pâtissez aussi également, vous avez quand même un sacré penchant pour le sucré et les desserts. Visiblement, vos recettes sont des succès, à entendre vos co-détenus. Vous faites plaisir aux gens de votre entourage. Vous profitez de la prison, en quelque sorte, pour vous racheter une dignité, en quelque sorte, et vous mettre dans le droit chemin. Mais quand a vraiment émergé, pendant votre détention, l'idée de faire, à la sortie de prison, de la cuisine, un vrai métier? C'est une différence entre cuisiner comme ça et se dire qu'on va en faire son métier?
Ouais, en prison, il y a eu une initiative de l'école de Thierry Marx, Cuisine Mode d'Emploi, qui a été de proposer une formation donc cuisine en 2 mois, je crois 8 semaines, qui était réservée à des condamnés qui pouvaient aller effectuer leur stage à l'extérieur. Mm-hmm. Mais donc moi je pouvais pas postuler à cette formation. J'ai fait une formation vente en jardinerie à la place, mais c'était juste à côté, donc à toutes les pauses j'allais discuter avec la chef, et c'est comme ça que l'idée a émergé petit à petit de me lancer dans la cuisine à la sortie. Dès que j'ai été jugé, j'ai candidaté et j'ai obtenu ma première permission de sortie, et la dernière aussi, mais pour aller passer un entretien dans l'école.
Donc ça a été votre première permission, ça a été boum, direction. Donc vous êtes à Fleury-Mérogis, je crois que l'école cuisine mode d'emploi de Thierry Marx est plutôt située au nord de Paris.
C'est dans le 20e.
Dans le 20e arrondissement. Et là, c'est la première chose que vous faites, c'est rendez-vous dans cette école.
C'est ça, c'est ça.
Il se passe quoi là?
J'ai un entretien avec la chef que j'avais déjà rencontrée et une autre personne de l'école. Et on échange, ça matche directement, on me demande ma pointure et ma taille à la fin de l'entretien. Donc je commence déjà à me projeter, à voir les premières vestes, les chaussures de cuisine, tout un nouvel univers.
Vous ne saviez pas encore quand vous alliez sortir?
Non, ça faisait partie du projet. En fait, on est obligé de présenter des garanties. Donc c'est un risque qu'on prend aussi. Mais bon, voilà, je ne savais pas si ça allait aboutir ou pas.
Et alors, il s'est passé quoi ? Donc, vous avez été...
Ouais, la juge d'application des peines a accepté ma demande. Et, donc, c'est, après, tout s'est allé super vite. Dès que je suis sorti, je crois que j'ai eu 2 jours et j'ai attaqué l'école. On faisait des horaires incroyables. J'allais courir à 5h du mat et on attaquait l'école à 7h. C'était un gros volume. En parallèle, je suis devenue chroniqueuse aussi pour l'émission de Maïtena. Donc, voilà, je commençais à peine la cuisine et je devais déjà faire des vidéos de recettes pour la télé.
Ces vidéos pour la chaîne parlementaire, l'émission déconfinée de Maïtena Biraben se tournait d'ailleurs à l'école Cuisine Mode d'Emploi de Thierry Marx.
Oui, on a fait le tournage des 4 émissions dans les locaux. Donc.
Vous m'avez dit, j'ai vécu, dès ma sortie de prison, une véritable frénésie culinaire.
Oui, clairement, j'ai enchaîné directement avec l'école, j'ai travaillé, il y a eu plein d'opportunités malgré le Covid en soi. Et à partir de là, après, j'ai pas pris de vacances pendant 5 ans, même les week-ends c'était compliqué, j'ai cuisiné tout le temps, c'est devenu ma vie, je cuisine tout le temps.
Précisons quand même que Cuisine Mode d'Emploi de Thierry Marx, la première école s'est lancée en 2012 à Paris, on l'a dit, dans le nord de Paris. Une école qui dispense des formations en cuisine, boulangerie, service, en restauration, visant les personnes éloignées de l'emploi. Le succès est énorme, il y a maintenant plus d'une dizaine d'écoles Cuisine Mode d'Emploi de Thierry Marx sur tout le territoire, dans toute la France. Vous, votre formation a duré combien de temps, Justine Audouin ?
C'était 3 mois, je crois. Mm-hmm. Si je m'abuse, ça dispense pas un CAP, c'est un CQP. Mais c'est une formation assez intensive avec des gros volumes horaires. Un restaurant d'application aussi sur place où on peut quand même avoir des services et accueillir des convives. Donc on est directement dans le concret.
Et ensuite, vous avez continué sur cette voie en allant dans une autre école parisienne de cuisine particulièrement réputée.
Oui, Ferrandi. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est l'école que je connaissais, que tout le monde connaît. J'avais envie de passer par Ferrandi, de viser l'excellence. Enfin, ce que je pensais être l'excellence en tout cas.
Et puis ensuite, vous avez fait des stages dans 2 très belles maisons parisiennes. Citez-nous quelques maisons qui figurent sur votre CV.
Le Lucas Carton, le Saint James. À peu près tout. Mais, ouais, voilà.
Babel à Belleville.
Babel à Belleville où j'étais sous chef.
Oui. Il y a Gram aussi, qui est un coffee shop restaurant qu'on apprécie beaucoup avec une chef à sa tête qui a beaucoup de talent, Marine Gora.
Oui, génial chef avec qui j'ai adoré travailler. Je suis passé au galopin aussi. Enfin, j'ai eu beaucoup d'expériences différentes. J'ai fait aussi de l'événementiel, du catering. J'essaye d'étoffer mon champ de compétences en allant voir ce qui se passe partout.
On quitte Paris, direction Marseille.
On va déguster. Sur France Inter.
Et oui, Zazie Tavitian, vous êtes notre chroniqueuse, reportrice, et vous êtes allée avec votre micro dans un restaurant unique en son genre en France.
Et oui, je me suis rendue au restaurant des Baumets, au sein du centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille. Les Baumets, c'est un restaurant ouvert en octobre 2022 par Festin, une association engagée dans l'insertion socio-professionnelle par la cuisine. Ce lieu est ouvert au public, on y mange une cuisine bistronomique préparée par une brigade de détenus. À la tête de cette brigade, il y a la chef Sandrine Soulier, le sous-chef Valentin Majan et le maître d'hôtel Marc Balthazar. Ils forment tous les 3 les cuisiniers et les serveurs. Et puis tous les 3 mois, un ou une chef invitée vient apprendre aux détenus une recette qui est ensuite proposée à la carte. Parmi ces chefs passés par les Baumets, il y a Léo Troisgros qu'on a entendu au début de l'émission.
Le frère de César.
C'est ça, Romain Médère ou encore Manon Fleury qu'on connaît bien dans cette émission aussi. Et le jour où je m'y suis rendue, c'était Juliette Bussetto, chef des agitateurs à Nice, qui était là pour apprendre à cuisiner son plat de calamar grillé et sauce vierge. Elle a d'abord raconté son parcours devant une brigade très attentive avant de filer en cuisine pour les travaux pratiques. Je me suis faufilée, moi aussi, avec mon micro. J'ai d'abord demandé à Sandrine Soulier, la chef présente depuis le début du projet, de me parler de la carte du restaurant.
On a imaginé la carte, 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Vu qu'ils tournent chaque semaine sur les postes, ils ont toutes les connaissances en pâtisserie, aux entrées, aux desserts. En plat, on a la tomate de Romain Médère, on a un filet de bœuf aux champignons et de la liche. Voilà, on essaie de faire des poissons que les gens ne connaissent pas forcément. Et après, en dessert, on fait un fraisier revisité avec des poivrons. Par exemple, le chocolat de cette carte, on a fait une coque en chocolat qui est assez technique. Et ça leur met des petits challenges. Et chacun, après, choisit son poste généralement. J'en ai un qui préfère les entrées au chaud, j'en ai un qui préfère le chaud, les desserts.
C'était la première fois que vous travaillez aussi avec des détenus ?
Avec des détenus et dans le social. J'ai toujours fait que des étoilés ou des restaurants gastronomiques. C'est beaucoup plus de pédagogie, avec beaucoup plus de bienveillance. Bah, c'est vrai que dans la cuisine, c'est toujours un peu rigide, en plus en tant que femme, donc c'était très compliqué. Il y a beaucoup plus de problèmes. Donc quand ils arrivent, il faut les mobiliser à vouloir travailler. Alors que des fois, il y en a, bah, le surveillant n'a pas ouvert la porte, il y en a un qui a mis la musique trop forte, il y en a un. Donc c'est assez compliqué. Ils peuvent arriver des fois dans des états assez déroutants. Et du coup, il faut les recentrer, leur dire que bah, aujourd'hui, on va passer une bonne journée, on va travailler ensemble, on va donner du plaisir aux gens. Et c'est vrai que sur toutes les équipes qu'on a eues depuis le début, ils y mettent tous du cœur à ce que ce projet réussisse, à ce que les gens qui viennent manger passent du bon temps. Et la plupart des gens sont contents. Moi, c'est vrai que j'ai cette faculté de beaucoup faire sur le ton de l'humour. Quand on met quelqu'un dans le frigo, bah, ça le refroidit, bah, c'est comme un aliment, voilà. Ça fait rire, mais au final, bah, ça vous reste après marqué. Et du coup, ça marche. Petit à petit, ils y arrivent et au final, quelques mois après, ils nous disent bah, « C'est vrai que je m'énerve plus pour rien, je m'énerve plus pour une petite chose. » Mais ici, on apprend juste la hiérarchie. Donc le second et moi-même, il faut qu'ils le respectent, qu'ils se respectent entre eux. Des fois, il y en a qui montent en compétences. J'ai eu des commis qui sont montés en tant que second. On leur laissait le pass, on leur laissait les compétences. Et il faut qu'entre eux, qu'ils s'aiment ou pas en détention, sur le plateau, en tout cas, ils doivent faire avec. Donc c'est assez intéressant ce côté humain. Après, ils savent que dehors, c'est dur. Et du coup, beaucoup disent, moi, je veux travailler en cuisine, mais qu'avec vous et pas dehors. Sauf que bah, j'espère pas qu'ils resteront toute la vie ici. Donc voilà, il y en a qui ont des beaux parcours et qui ont envie, alors qu'au début, ils n'avaient jamais fait de la cuisine. Et voilà, ils sont très fiers et je suis très fier qu'ils s'en sortent.
Les branches, on les coupe.
Alors ce restaurant, il fait partie d'un programme de réinsertion plus large, la SAS, structure d'accompagnement vers la sortie. Ces structures sont notamment destinées à ce que les détenus en courte ou fin de peine s'insèrent et évitent ce qu'on appelle les sorties sèches, donc des sorties sans lien préalable avec l'extérieur, qui, c'est un fait documenté, sont très compliquées pour les détenus qui se retrouvent dans la vie civile avec des risques de récidive. Et pour travailler au Baumet, les détenus doivent faire un CV, passer un entretien d'embauche et s'engager aussi à ne pas demander d'aménagement de peine durant 4 mois. Il y a 2 brigades qui travaillent 2 jours par semaine et un mercredi sur 2. Moi, j'ai demandé à Alaïdine, 37 ans, qui est serveur et qui était en train de couper du fenouil, de me raconter comment il avait eu connaissance de ce programme.
Mais moi, j'avais entendu de l'extérieur déjà. Il y avait un petit de mon quartier qui était là. Ouais, ben, il est sorti, ben, il travaille toujours dans la cuisine. On va rester les bras croisés. On ne tient pas là pour rien, tiens pour quelque chose. On va perdre son temps.
Mais du coup, ça vous plaît?
Ça me plaît, ouais. Ça me plaît, ouais. Franchement, ça me plaît. Je vais faire un stage, là, dans pas longtemps. Au Sofitel du Faro, si vous connaissez. Restaurant, il faut des petits déjeuners le matin. 5 jours, du lundi au vendredi.
C'est stressant un peu ou ça va?
Ah, c'est un peu stressant, on va voir comment c'est à l'extérieur. Hein, parce que là, voilà, les gens, ils savent qu'on est un peu dans... la réinsertion et tout. Mais dehors, il y a des liens qui sait, il y a des personnes qui sait. Dehors, c'est pas pareil. Dehors, il y aura plus de monde, il y a plus de choix.
Ouais.
Ça va être un peu chaud.
C'est bon, chef, elles sont là.
Partez pas les mains vides.
Alors, aux dernières nouvelles, Alaïdine s'en est bien sorti en stage car il a 2 propositions de travail saisonnier à partir de ce printemps. On estime que 82% des détenus passés par les Baumets sortent avec un emploi ou une formation à l'issue de leur peine, dont beaucoup dans la restauration. Et je précise qu'avoir un accès au travail en prison, tout comme un accompagnement personnalisé et des activités, c'est très marginal. On l'entend souvent, les prisons en France sont surchargées. Les derniers chiffres sortis hier parlent de 130% de taux. 30% de taux d'occupation moyen et jusqu'à 159% en maison d'arrêt, donc les endroits où sont incarcérés les détenus en courte peine ou en attente de jugement. Donc ces programmes de réinsertion, ils peuvent vraiment changer la dynamique pour les personnes incarcérées. C'est ce que m'a raconté Claudette, surveillante pénitentiaire, présente le jour du reportage.
Mon surnom, Patate Douce.
Pourquoi ?
C'est les détenus qui m'ont surnommée comme ça. Patate parce que je suis ronde et douce parce que je suis gentille. On est surveillante, oui, avec un trousseau de clés, mais on est psychologue, maman, nounou, tata, tonton, pour les collègues. On passe beaucoup plus de temps avec eux que chez nous. Hein. Certains, on comprend plus pourquoi ils sont là, parce que bon, effectivement, vu l'enfance qu'ils ont eue, c'est franchement certains, je me dis respect, déjà qu'ils soient toujours en vie. Moi, j'aime beaucoup ce que je fais. Je me bats même à l'heure actuelle, chaque fois que j'ai des clients qui viennent, je leur dis surtout merci, merci, je les remercie toujours, parce que j'ai dit grâce à vous, ça existe. Vous donnez voilà, l'envie aux jeunes de faire des choses qu'ils ne pensaient peut-être pas faire un jour. Et c'est vrai que le projet, moi, je l'ai trouvé fantastique. Il ne suffit pas de mettre les gens en prison. Il faut leur donner un but aussi et de les remettre au goût du travail. Je trouve que franchement, ça leur redonne de la confiance en eux. C'est quelque chose qu'ils perdent quand ils sont en prison. Ils perdent confiance en eux. Et ça, ça leur redonne le sourire, ça leur redonne confiance de se dire, tiens, on est bon à faire autre chose que... Et puis c'est bien, c'est intéressant, on voit des gens. Moi, j'ai vu l'évolution là depuis 2 ans. C'est impressionnant. Les gens, quand ils ont commencé, et à la fin de leurs 4 mois ou plus, parce qu'il y en a qui ont travaillé plus de 4 mois ici, hein, la personnalité du détenu a complètement changé. Parce que je veux dire, c'est vrai qu'au début, ils étaient tous tout penauds. On va faire tomber le plateau. Moi, je sais qu'ils venaient me dire, mais patatous, si jamais je fais tomber un plateau, si jamais... Et alors, j'ai dit, dehors, même dans un grand restaurant, les gens font tomber les choses, t'inquiète pas. Et puis, le mot s'est dit, puisque quand ils viennent ici, maintenant, ils disent, mais il paraît qu'il y a un restaurant, il paraît que c'est bien, qu'on peut apprendre à cuisiner, qu'on peut apprendre à servir. Et ils n'ont pas de jugement, en somme. On les juge pas. Ils sont là pour travailler.
Et vous, vous avez déjà mangé ici, j'imagine?
Oui. Je crois que j'ai fait pas mal de cartes. Donc moi, j'ai pu déjà tester la première. Et ensuite, je suis venue et en cadeau de Noël, je l'ai offert à ma maman, à ma fille. Et là, j'attends la nouvelle carte impatiemment pour pouvoir revenir. À chaque fois, je teste. Mais c'est très, très bon.
C'est un sacré personnage, hein, Claudette, ouais, alias Patadouce, surveillante pénitentiaire au Beaumet à Marseille. Zazie, vous nous confirmez en fait que les Beaumets, ce restaurant, tout le monde peut venir s'y attabler.
Oui, il faut réserver sur le site environ 4 jours à l'avance, avoir un casier judiciaire vierge et être majeur. Vous pouvez ensuite vous présenter à l'entrée où une surveillante, comme Patadouce, vous explique l'histoire du lieu. Mm-hmm. Vous laissez vos affaires, dont votre téléphone, dans un casier. Donc vous ne pouvez pas prendre en photo vos plats, mais parfois c'est
et
pas plus mal.
Et les mettre sur Instagram, mais oui, ça fait du bien de faire une pause numérique.
C'est ça. Et on vous amène dans la très belle salle du restaurant. Alors on peut avoir un peu peur du côté voyeuriste, et je vous rassure, c'est pas du tout l'ambiance ni l'idée du projet. Manger au Beaumet, ça permet déjà que ce projet existe, car il est en partie financé par le chiffre d'affaires du restaurant, pas seulement par les subventions. Donc c'est un vrai défi qu'il puisse être pérenne. Et puis c'est aussi tout simplement délicieux, c'est très bon. Et à partir de mardi prochain, le nouveau plat à la carte sera celui de la chef Chloé Charles. Et je crois qu'elle a préparé un rouget à la grenobloise accompagné d'une purée de chou-fleur.
Ça fait envie, les Beaumets, le restaurant à Marseille. En regardant les réseaux sociaux d'ailleurs, hein, petite indiscrétion entre guillemets, François Morel, qui est le chroniqueur du vendredi sur France Inter, s'est attablé aussi au Beaumet cette semaine. Il était en tournée, il montait sur scène, sur les planches à Marseille. Il est allé au Beaumet et je crois que ça s'est très très bien passé selon les stories de son compte Instagram. Vous êtes déjà allé au Beaumet ou pas, Justine Audouin?
Non, j'y suis pas encore allé, mais c'est une super initiative, je trouve.
On vous a pas proposé d'aller cuisiner là-bas?
Non, pas encore.
Parce que on vous considère évidemment comme, entre guillemets, c'est peut-être d'ailleurs aussi peut-être un rôle un peu lourd à porter, comme un modèle de réinsertion. Est-ce que vous avez envie, à votre tour, voyant que vous réussissez dans le métier de la cuisine et que vous avez du succès, de vous mettre, de mettre votre talent à nouveau au service de la réinsertion des autres, par exemple?
Oui, ce serait avec plaisir. Moi, ça a changé ma vie d'avoir cette opportunité-là. Et toutes les activités qui sont proposées en détention, elles sont primordiales et capitales. Enfin, ça change des vies de ce genre d'initiative. Et si je peux y contribuer, ce serait avec grand plaisir.
Il y a d'ailleurs beaucoup, beaucoup d'initiatives et de structures. On a, par exemple, Wake Up Café, une structure montée par Clotilde Gilbert, une ancienne aumônière de prison, qui assure la réinsertion des détenus et des ex-détenus dans différentes filières professionnelles. D'ailleurs, sur son site internet, vous évoquiez les risques de récidive, les questions de réinsertion, Zazie Tavitian. J'ai trouvé cette citation qui fait réfléchir de Chris Grayling, c'est l'ancien secrétaire d'État à la justice de tendance conservateur au Royaume-Uni, et qui dit « Si on ne s'implique pas dans la réinsertion d'un détenu, on s'implique dans sa récidive ».
To tell you how deep the night is, but life is a mystery, no key to crack the mystery. When I woke up, you were gone. I lay my head back down, the ghost ranch glowing in my inner eye. What do I do about my destiny now? With the bowed-headed beauty, only I receive it. How clearly the lost transmission went burning from your radio to mine. I keep one.
stretched out beneath the dome and dreaming. Soul dissolves in geometric blue. Goodbye, goodbye to everyone that's leaving. I understand it, but I cannot explain. What do I do about my destiny now? Explain. What do I do about my destiny now? Faced with the bowed-headed beauty, only I receive it. How? Clearly the last transmission went burning from your radio to mine. I keep one ear on the line.
Coda de Flora Hibbert, c'est une artiste londonienne installée à Paris.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
On aborde la question de la réinsertion par les métiers de la cuisine et de la restauration pendant et après une période de détention, pendant et après la prison. On a pas mal de réactions, Zazie Tavitian.
Oui, on a beaucoup de réactions et une qui m'interpelle un peu, c'est Emmanuel qui a été formateur en centre de détention et qui dit « En prison, on monte de la chantilly avec une bouteille d'eau et des billes. »
Ah,
comment ça marche? Vous connaissez ça?
on fait tous pareil. Pareil pour les blancs en neige. Bah, l'idée, c'est juste de le mettre dedans et de secouer pendant un petit moment.
Et en effet, en fait, ça marche?
Ouais, ça monte. Ouais. J'ai fait une vidéo de moi en train de le faire. Ça
doit faire du bruit, accessoirement.
Ça fait du bruit.
Justine Autoin, vous ne faisiez pas de vidéo, vous n'étiez pas une tic-tolar, entre guillemets.
Non.
Vous ne faisiez pas de vidéo pendant votre période de détention?
Non.
Vous vous contentiez de d'inventorier, en fait, les recettes sur vos petits carnets?
De noter, ouais. J'ai 3 ou 4 carnets. 4. Donc ça fait beaucoup.
Beaucoup d'initiatives autour de la question de la réinsertion pendant et après la prison. La maison d'arrêt d'Épinal, dans les Vosges. Et bien là-bas, 600 repas sont distribués quotidiennement et préparés sur place par une équipe de 9 détenus encadrés par 2 chefs cuisiniers. À la prison de Varennes-le-Grand, on est dans le département de la Saône-et-Loire. Une expérience a été menée avec plusieurs détenus qui ont quitté la prison pour suivre une formation au fourneau au centre Stello de Chagny. Également une autre initiative à la prison de Lons-le-Saunier, dans le Jura, où le chef cuisinier et pâtissier Romain Ponard du CFA de Jeuvinget organise des ateliers de cuisine. Et puis il y a également ces restaurations de la protection judiciaire de la jeunesse. On compte quand même en France 27 restaurants d'application ouverts à toutes et tous et qui sont rattachés aux unités éducatives d'activité du jour et qui œuvrent pour l'insertion des mineurs en conflit avec la loi. Voilà, il est prouvé que, notamment dans les métiers en tension comme la restauration, les métiers de la cuisine, ça peut être un très bon moyen de rebondir après la parenthèse de la prison. Je vous propose de faire un voyage dans le temps, à l'heure, où l'on mangeait bien, voire où l'on faisait bonbons, en prison.
On va déguster.
Nous ne sommes pas historiens, mais nous aimons les bonnes histoires, même si elles sont inventées.
Sur France Inter.
Petit flashback historique avec vous, Loïc Bianassi, notre historien à maison, pour évoquer un destin qu'on ne connaît pas forcément.
Non, un petit pas de côté, puisque je vais parler ici des goûts du Marquis de Sade, ses goûts alimentaires. Alors pourquoi lui? Je vais y venir tout de suite, mais petit rappel. tout d'abord, donc Donatien Alphonse François de Sade, né en 1740 et mort en 1814, personnage sulfureux, ça j'ai envie de dire tout le monde le sait, et dont certaines actions, aujourd'hui encore, ne peuvent que choquer, hein, je laisse chacun se renseigner. Quoi qu'il en soit, les actions en question lui valent justement d'aller en prison. Et pour faire bref, sur son existence, en réalité, il a passé 27 ans en prison. Il a vécu 74 ans, donc, et il a passé 27 ans en prison.
Oui, donc plus d'un tiers de sa vie.
Oui, exactement. Et là, je vais m'intéresser aux 13 premières années de prison qu'il a effectuées entre 1777 et 1790. D'abord à Vincennes, dans le donjon de Vincennes, et puis à la Bastille. Donc, le marquis de Sade, avant de parler de lui, j'ai envie de dire, il y a sans doute quelques points à clarifier. Premier point, c'est que durant l'Ancien Régime, on n'est pas condamné à faire de la prison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de peine de prison. La prison n'est pas une peine, c'est un moment où on peut attendre la sentence, il y a différents cas de figure. Et précisément, le marquis de Sade, lui, est enfermé dans ce qu'on appelle une prison d'État. C'est-à-dire ces prisons où notamment, j'allais dire, étaient logés, mais c'est un peu le mot, on va le voir tout de suite, étaient un peu logés des gens de bonne famille, qui étaient vraiment surreprésentés dans ces prisons d'État, et qui avaient atterri là souvent à cause de ce qu'on appelait des lettres de cachet, c'est-à-dire un ordre du roi ordonnant leur emprisonnement. Et généralement, cet ordre du roi était donné à la demande des familles, et en l'occurrence, de la belle-mère du marquis de Sade, Madame de Montreuil, qui voulait étouffer, cas de figure classique, un potentiel scandale. Et ce qu'on voit dans ces prisons d'État, et ce qu'on voit avec le marquis de Sade, c'est que finalement, il règne, pour ces prisonniers spécifiques, hein, j'insiste, un certain luxe. À la Bastille, il est enfermé dans la tour Liberté, ça ne s'invente pas, dans une cellule modeste, mais avec un relatif confort, table, chaise, lit, chauffage. Et qu'est-ce qu'on mangeait ? Qu'est-ce que mangeaient les prisonniers à la Bastille ? On voit que les règlements prévoient pour l'ordinaire le déjeuner, une soupe, une entrée, une viande. Pour le souper, deux plats, dont un de viande. Et puis, en plus, une livre de pain par jour et une bouteille de vin par repas.
De l'alcool en prison.
De l'alcool en prison. Et en plus, certains bénéficiaient de ce qu'on appelait un régime avec plus d'aliments et des produits encore plus fins, ce qu'on appelait la table du gouverneur. Et en plus, certains, s'ils avaient les moyens, pouvaient s'offrir des suppléments. Et c'est le cas de Sade, puisque Madame de Montreuil, sa belle-mère, l'a fait enfermer, mais elle verse une pension qui permet l'entretien du prisonnier. Donc Sade, finalement, alors j'allais dire, n'a pas à se plaindre. En fait, il passe son temps à se plaindre, et notamment de la nourriture. Mais globalement, les prisonniers à la Bastille ne se plaignaient pas réellement de leur alimentation. Et donc, Sade, dans ses suppléments, se fait livrer. Août 1787, il se fait livrer des abricots, des figues, des melons, des paniers de fruits, des gros biscuits, du fromage à la crème, du sirop d'orgeat, un rouleau, c'est-à-dire une sorte de flacon de sirop de groseille, du vin, de la bière, de la glace. Il se procure aussi des pigeons qui vont être cuisinés dans la cuisine de la Bastille. Et puis, il aime les produits fins. Par exemple, il demande, toujours en 1787, à son épouse, parce qu'en fait, on connaît tout ça par les lettres qu'il échange avec son épouse. Il demande à son épouse des truffes conservées dans l'huile.
Ah, carrément.
Et oui,
des truffes noires, la tubervenenos pour
absolument, mais il a des liens avec la Provence, et on voit que certaines demandes, c'est une vieille famille de Provence, les de Sade, et on voit que certaines demandes renvoient à ses goûts provençaux, des figues, du vin cuit, du nougat blanc. Et on voit aussi qu'il a des vraies connaissances culinaires. On a un petit document non daté où on voit qu'il a des suggestions de plats pour des entremets, des macaronis, une célestine, c'est-à-dire une omelette soufflée au sucre, des lasagnes, une omelette au rognon, du pain perdu. Donc ça fait partie des entremets au XVIIIe siècle. Et puis il râle souvent. On voit par exemple en 1779, alors là il est à prison de Vincennes à ce moment-là, il écrit à sa femme « Le biscuit de Savoie n'est pas un mot de ce que je demandais. 1. Je le voulais glacer tout autour, dessus et dessous, de la même glace que celle des petits biscuits. 2. Je voulais qu'il fût au chocolat en dedans, et il n'y en a pas le plus petit soupçon. Ils l'ont brûlé avec des jus d'herbe, mais il n'y a pas ce qui s'appelle le plus léger soupçon de chocolat. » Donc il demande à sa femme de remédier ce genre de souci.
Le marquis de Sade avait ses exigences.
Absolument. Et donc, il explique qu'au premier envoi, il faudra un biscuit, comme je viens de te le dire, 6 ordinaires, 6 glacés et 2 petits pots de beurre de Bretagne, mais bon et bien choisi. Donc, en effet, le marquis de Sade fait partie de ces prisonniers aristocratiques qui bénéficiaient de ces suppléments, donc moralité. Quand la Bastille tombe en 1789, et lui, il vient juste d'en sortir pour une autre prison, Il n'y a que 7 prisonniers dans cette Bastille qui tombe le 14 juillet. C'est certainement un symbole de l'arbitraire du pouvoir royal, mais en réalité, on se rend compte qu'entre ces murs, c'était aussi un symbole des inégalités
oui.
de cet ancien régime où des aristocrates pouvaient continuer finalement à manger tranquillement et, du gâteau au chocolat.
Et faire Provence tranquillement et même Absolument. Se plaindre si ce n'était pas et tout à fait à leur goût. Et d'ailleurs, je profite de votre présence, Luc Bianassi, pour évoquer une réalité qu'on ne connaît pas forcément. Il paraît qu'un repas bien garni, en parlant de Bastille et de Révolution, pouvait être la dernière volonté du condamné avant de passer sous la guillotine ou...
Mais au fond, alors c'est amusant parce que les repas des condamnés lors de la Révolution prolongent un peu ces inégalités. C'est-à-dire qu'on se retrouve aussi avec des condamnés fortunés qui ont droit à quelques égards, et puis les plus pauvres, guillotinés ou pas, eux n'avaient certainement pas droit à ces mêmes égards. Et on a des exemples, par exemple 1793, on a le duc d'Orléans qui mange des huîtres, 2 côtelettes et qui boit les 2/3 d'une bouteille de vin de Bordeaux juste avant qu'on vienne le chercher pour être décapité. Ou le duc de Biron qui explique, ou qui expliquerait, un petit conditionnel s'impose, mais un moment avant l'arrivée de la charrette, il commande des huîtres et du vin blanc. Quand l'exécuteur pénétra dans la prison, le condamné dégustait tranquillement. « Je suis à vous, dit Biron, mais au moins laissez-moi finir mes huîtres.
» Merci beaucoup, Loïc Bianassi. On finit avec une dernière recette. On arrive à la fin de cette émission, Justine Audouin. Et vous nous avez préparé un dessert, comme vous les aimez, assez original, faut bien le dire.
Ouais, et je me suis retrouvé un moment au restaurant, au Galopin, à avoir beaucoup de pots de poulet, à pas trop savoir quoi en faire.
Là, on parle d'un restaurant que vous avez occupé, dont vous avez été, effectivement, vous avez été au fourneau du Galopin, on est Paris 10e, hein.
Ouais. Tout à fait. Et donc j'ai eu l'idée de faire une glace avec cette peau de poulet. Donc là, je vous ai fait un sundae avec un shortbread à la châtaigne, caramel beurre salé, chips de châtaigne, une chantilly au thym un peu dans l'esprit du poulet rôti du dimanche, quoi.
Qu'est-ce que c'est bon, ça ?
Ouais, la peau de poulet en topping, ça fait vraiment un petit twist un peu salé. Et puis, c'est assez irrésistible, le goût de la peau de poulet.
Et oui,
mais ça marche très bien avec la glace.
C'est ça, ça apporte effectivement cette petite pointe de sel, cette ponctuation très agréable. Monsieur dessert, je sais qu'il adore les desserts, Loïc, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, moi, je suis peut-être un bec sucré, mais en l'occurrence, justement, cette touche salée, je trouve ça délicieux. Moi, j'aurais pas identifié, en fait.
Ouais, j'avais fait goûter à l'aveugle. Il y a quelques personnes qui étaient parties sur du bacon ou avec de la viande, mais ouais. Je trouve ça marche plutôt pas mal, je suis assez contente de ce dessert.
On est entre le poulet rôti et cette glace industrielle, ce sundae servi dans un fast-food dont on ne citera pas le nom parce qu'on n'a pas envie de lui faire de la pub, mais on est quand même dans cette idée-là, quoi.
Ouais, tout à fait. Le côté un peu régressif, mais un peu twisté. C'est ce que j'aime bien faire dans mes desserts maintenant.
Bon, prochaine étape, Justine Audouin, effectivement, un restaurant d'importance avec Marie-Victorine Manoir, ouais. Mais également un livre, main dans la main, avec Claire Martz qui est présente avec nous. Vous avez déjà une maison d'édition, une date de parution ?
Non, pas encore. On a plusieurs pistes. C'est déjà chouette que le projet intéresse. Donc on est encore en phase de rédaction.
Eh ben, vous allez raconter justement l'intégralité de votre histoire, peut-être aussi les recettes.
Oui, on va en disséminer quelques-unes dans le...
Eh ben, vous reviendrez avec grand plaisir nous reparler de votre livre. On vous souhaite une très bonne chance pour cette belle carrière de cuisinière qui a démarré maintenant depuis quelques mois sur des chapeaux de roue. Merci beaucoup Justine Audouin d'être venue à notre micro.
Merci à vous.
Pour finir, je voudrais saluer depuis quelques jours la sortie du dernier numéro de Sphère. Sphère, c'est une revue qui s'intéresse aux grandes histoires des petites communautés. Après avoir plongé dans l'univers insolite des libertins, des boxeurs, des athlètes olympiques, des photographes, Sphère consacre son tout dernier numéro au chef, un numéro dont j'ai eu la chance d'être le rédacteur en chef invité, avec de nombreux papiers passionnants à lire. Il y a par exemple un entretien croisé entre Olympe Versigny et Stéphanie Lequelec, un dialogue entre le chef 3 étoiles Glenn Vielle et le plongeur et photographe sous-marin Laurent Balestra, ou encore un portrait captivant, je ne le connaissais pas, de Tarek Alameddine. C'est un prodige libanais de la cuisine qui fut sous-chef pendant 6 ans au Noma, à Copenhague quand même, et qui est rentré au Liban, son pays natal, en 2023, malgré la crise économique et malgré la guerre. Et qui a récemment converti ses cuisines en cantine sociale pour les déplacer. Le dernier numéro de Sphère, consacré au chef, disponible en librairie et dans les magasins relais. La semaine prochaine, on vous raconte et on cuisine, attention, ça va vous intéresser, Justine Audouin, les grands mélanges d'épices du monde avec Mathilde Rollinger et un chef qu'on aime beaucoup, Adrien Ferrand. Merci Zazie, merci Loïc. À dimanche prochain si vous avez encore faim.